Bonne année tout le monde et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés. On soutient aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins pour les troubles neurocognitifs. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine, ainsi que le grand public. L'une de nos ressources les plus importantes est ce livret-là, ça s'appelle Troubles neurocognitifs, votre guide d'accompagnement, qui peut être téléchargé gratuitement et aussi disponible en 12 langues différentes. Vous pouvez obtenir un exemplaire imprimé sur Amazon et les fonds vont aller pour soutenir nos programmes. Alors, j'encourage tout le monde d'obtenir une copie de ce livret-là. Alors aujourd'hui, pour lancer la nouvelle année, nous allons discuter des stratégies pour améliorer la participation aux activités des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Aussi, grâce à un don très généreux de la Fondation Proche Aimant de Petro-Canada, nous sommes très heureux de présenter aujourd'hui une nouvelle ressource gratuite qui encouragera les personnes atteintes des troubles neurocognitifs, avec l'aide de leurs proches aidants, à participer à des activités de loisirs et créatives. Mon collègue, la professeure Marie-Ève Bolduc, est ici avec moi pour expliquer pourquoi c'est important et comment cela a vu le jour. Professeure Bolduc est professeure adjointe à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche touchent particulièrement les troubles d'origine cérébraux, les troubles développementaux et l'enseignement par simulation. Forte de son expérience d'ergothérapeute, de responsable de programme et d'éducatrice en simulation, elle participe depuis 2019 à l'élaboration de matériel de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs au sein du programme de formation pour notre programme à McGill. Pendant la pandémie, Mme Bolduc a supervisé la création par 4 de ses étudiants d'un livret d'activités à l'intention des proches aidants des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Ce livret a été très populaire et grâce à ses conseils et au financement de la Fondation Prochainement du Petro-Canada, nous avons donné vie à certaines de ces activités dans des vidéos que vous allez voir aujourd'hui. Professeur Bolduc parlera de l'importance de la participation dans les activités de loisirs et de la vie quotidienne pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Elle partagera des idées pour adapter les activités aux capacités d'une personne et montrera quelques-unes des nouvelles vidéos sur les activités liées dont nous allons lancer aujourd'hui sur notre site web. Bienvenue à McGill à vos côtés.
Merci, Claire. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir vous présenter cette présentation qui amène un petit peu de lumière sur des stratégies qu'on peut utiliser pour améliorer la participation aux activités pour des gens qui ont un trouble neurocognitif. Donc, ce que je veux faire comme plan aujourd'hui dans cette présentation, c'est que je veux d'abord vous parler un petit peu de l'ergothérapie parce que c'est souvent une profession qui est peu connue. Ensuite, je vais vous expliquer un peu l'importance, donc pourquoi c'est si important de participer à des activités pour les personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs, mais aussi pour leurs partenaires de soins. Ensuite, on va vous proposer quelques stratégies pour adapter les activités aux capacités de la personne. Puis, je vais terminer, comme Claire le mentionnait, en présentant quelques ressources qu'on a développées pour vous aider à trouver et à adapter des activités. Donc, dans la présentation, j'utilise le terme trouble neurocognitif. Vous avez peut-être aussi entendu le trouble de démence. Donc, dans recherche et au niveau des nouvelles, des approches au niveau des soins de santé, souvent, on va utiliser plus le terme trouble neurocognitif. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une ergothérapeute ou un ergothérapeute? C'est un ou une professionnelle de la santé qui va travailler dans plusieurs milieux. Donc, ça peut être au domicile de la personne, ça peut être dans la communauté, donc dans différents organismes, dans des institutions comme des hôpitaux. Ça peut être aussi dans l'industrie ou le commerce. À ce moment-là, souvent, on va aller en termes de prévention ou de modification des pratiques ou même au sein du gouvernement. Donc, en ergothérapie, on travaille aussi avec plusieurs types de problématiques ou de difficultés. Donc, ça peut être en santé mentale, en santé physique, au niveau de la neurologie ou au niveau des difficultés qui sont plus de l'ordre cognitif. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est on veut avoir une approche qui est holistique. Donc, on considère toutes les sphères de la vie. Donc, même quelqu'un qui va nous être référé pour un problème qui est plus physique, on veut aussi considérer sa santé mentale parce que, bien sûr, quand on a une difficulté ou une nouvelle problématique, ça peut affecter notre santé mentale, mais aussi même, ça peut prendre en considération le facteur spirituel. Donc, ce qu'on veut comme ergothérapeute, c'est d'aider à résoudre les problèmes qui interfèrent avec l'habilité d'une personne de faire ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle doit faire. Donc, c'est vraiment en termes de participation, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là ne peut plus faire ses activités. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on analyse la relation entre les capacités de la personne, l'activité qu'elle souhaite réaliser et l'environnement dans lequel cette activité-là est réalisée. Donc, si on prend, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui, on aurait donc dans cette diapo-là, qui pourrait souffrir d'une condition, d'une blessure qui fait en sorte qu'elle a moins d'équilibre. Donc, elle est plus prône à trébucher, à tomber, son pas est un petit peu moins sûr. Donc, et cette personne-là doit faire son épicerie pour se nourrir. Donc, c'est très différent pour elle l'impact de sa blessure ou de sa condition. Si cette personne-là peut faire l'usage d'une voiture, versus si cette personne-là doit marcher sur une route qui est plus ou moins droite, donc qui demande beaucoup plus d'équilibre. Donc à ce moment-là, l'impact de sa condition sur son activité qui est de faire l'épicerie va être beaucoup plus affecté. C'est aussi différent si cette personne-là veut en fait aller à l'épicerie ou si cette personne-là fait normalement son épicerie en ligne. Donc, c'est sûr que si on considère qu'elle fait son épicerie en ligne à la table de cuisine, l'impact de sa diminution d'équilibre va être beaucoup moindre sur cette activité-là. Donc, comme ergothérapeute, nous, on va aller vraiment travailler sur les trois sphères. Donc, on peut aller au niveau de l'environnement, de l'activité. Donc, est-ce que cette personne-là, elle veut faire son épicerie absolument dans un magasin ou est-ce qu'on pourrait modifier pour le faire en ligne ou autrement? En magasin, ça peut être même d'utiliser un chariot dans lequel elle peut s'asseoir. Ou est-ce qu'on peut modifier l'environnement? Donc, est-ce que cette personne-là pourrait avoir accès à une voiture ou à un transport adapté? Ou est-ce que quelqu'un pourrait l'amener à cet endroit-là? Donc, en ergothérapie, on peut aussi travailler l'équilibre de la personne directement, donc essayer d'améliorer son équilibre suite à cette blessure-là. Par contre, aujourd'hui, dans la présentation, on va vraiment focusser sur comment modifier l'activité en tant que telle ou l'environnement dans lequel elle est effectuée. Donc, vous demandez peut-être pourquoi on insiste tant sur les activités, pourquoi la participation est aussi importante. Mais en fait, la participation des activités, c'est un indicateur de qualité de vie. Donc, c'est lié au bien-être tant psychologique que physique. Puis aussi, le maintien de l'autonomie par la participation des activités peut aider les gens à conserver un sentiment d'identité avec le temps. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines diapos, c'est de regarder en détail certains des avantages de la participation des activités en plus de détails. Donc, l'engagement dans des activités, ça donne une valeur à la vie parce que ça donne un sens. Donc, souvent, c'est associé aux rôles qu'on occupe et qui sont importants pour nous. Donc, ça peut être notre rôle de mère, de grand-père, de travailleur. Et puis, ça implique aussi, ça procure un sentiment de bonheur et un sentiment d'utilité. Donc, si vous vous rappelez, les plus grosses vagues de COVID, on pouvait ni voir nos proches, on ne pouvait pas participer à nos activités de loisirs, souvent on ne pouvait pas travailler. Ça laissait vraiment un vide à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça qui se passe si on ne peut pas participer aux activités qui sont importantes pour nous. Donc, la participation des activités, elle peut aussi aider à évacuer le stress. Donc, on parle souvent de ça dans la société en relation avec l'activité physique, mais c'est aussi vrai pour des activités comme les casse-têtes ou même des activités qui ont des mouvements qui sont plus répétitifs, comme le tricot qu'on voit dans la photo, ici. Pour les personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs, il a été également démontré que la participation des activités peut diminuer certains des symptômes comportementaux, comme l'irritabilité, les délires ou même l'errance. Donc, les activités peuvent faire appel à différentes capacités et stimuler ces habiletés-là. Donc, par exemple, la peinture qu'on voit dans l'image ici, va aller stimuler la créativité. Et ça fait aussi appel aux capacités motrices, là, au niveau de l'utilisation du pinceau. Donc, c'est la photo qui est ici, on voit même que l'activité a une composante sociale parce qu'elle est faite en groupe, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, d'autres activités comme des mots croisés vont impliquer davantage des exigences qui sont cognitives, tandis que, par exemple, aller marcher, là, on va faire appel plus à l'endurance physique ou à l'équilibre. Donc, chaque activité va aller stimuler les activités qui sont requises pour son exécution. Puis ce qu'on a vu, c'est que même donc chez des gens qui habitaient en résidence, le fait de participer à des activités, donc les personnes qui participaient plus à des activités avaient des meilleures capacités cognitives. Donc cette stimulation-là va vraiment aller affecter les habiletés de la personne. Donc aussi, le fait d'être actif tout au long de la journée va améliorer de façon significative la qualité du sommeil. Donc c'est aussi pas négligeable. Et finalement, l'engagement dans des activités avec une autre personne, c'est aussi un moment positif à partager ensemble. Donc, lorsqu'on a une relation avec nos proches qui commence à impliquer de s'occuper d'eux, mais les rôles qu'on avait l'un pour l'autre changent, puis ça peut être difficile. Donc, participer à des activités ensemble pendant ces moments-là peut faciliter la transition là, au niveau du changement des rôles. Donc, dans le cas d'un proche aidant, puis de la personne dont cette personne-là s'occupe, ça a en fait été démontré que la participation à des activités communes, ça donne au proche aidant un sentiment de satisfaction par rapport à son rôle. C'est aussi un moyen de se rapprocher, de la personne de qui il s'occupe, puis d'améliorer sa relation avec elle. Donc, à quel type d'activité est-ce que les gens peuvent participer? Bien, ça peut être à peu près n'importe quoi. Je les ai divisés en quatre catégories, mais les possibilités sont infinies. Donc, la première catégorie, c'est celle qu'on appelle les activités de la vie quotidienne en ergothérapie. Donc, il s'agit des tâches qu'on doit faire chaque jour pour s'occuper de nous-mêmes. Donc, ça peut être manger, se laver, s'habiller ou même aller aux toilettes. Dans la deuxième catégorie, j'ai regroupé les activités de loisirs. Donc, c'est les activités qu'on fait pour s'amuser. Donc, ces activités-là vont varier beaucoup d'une personne à l'autre et il peut comprendre des activités qui sont artistiques, ça peut être des casse-têtes, des jeux intellectuels, ou même des activités physiques comme les quilles ou les promenades dans la nature. Donc, ensuite, une autre catégorie, donc au niveau des activités sociales, ça consiste à passer du temps avec les personnes que nous aimons. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une soirée cinéma dans le confort de son salon, partager un bon repas ensemble ou simplement aller prendre un café, s'asseoir sur un banc de parc, regarder autour ou parler ou écouter de la musique. Puis, les tâches ménagères, bien qu'on considère souvent pas les tâches ménagères comme notre activité préférée, mais c'est quand même souvent important pour une personne. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont considérer qu'avoir une maison propre quand ils reçoivent, quand les gens viennent à la maison, c'est important, ou même des fois juste avant d'aller se coucher. Donc, participer à plier, le lavage ou au nettoyage du réfrigérateur, ça peut être gratifiant à ce niveau-là. C'est aussi un élément de sécurité, donc de retirer les éléments périmés quand on vit avec une personne avec un trouble neurocognitif parce qu'elle pourrait ne pas penser de regarder si l'aliment est encore bon avant de le manger ou le consommer. Donc, une autre catégorie que j'ai pas inclue aussi, mais qui existe, c'est donc au niveau du travail ou du bénévolat. Donc, qui sera pas le sujet de cette présentation-là, mais c'est aussi une autre catégorie d'activités qui sont importantes pour les gens. Donc, avec autant de choix, comment on fait pour sélectionner la bonne activité? En fait, l'élément le plus important, c'est l'intérêt. Parce que c'est vraiment difficile d'apprécier une activité qui ne nous intéresse pas. Donc, dans cette photo-là, je montre une activité que moi, je n'apprécierais pas. Donc, j'ai vraiment une peur bleue des hauteurs. Donc, ce pont-là qui pourrait bouger au gré du vent, qui est situé très, très haut, ce n'est pas une activité que j'apprécierais. Mais une promenade dans la forêt qui est de l'autre côté, sans avoir à traverser le pont, tout à fait quelque chose que pour moi qui serait intéressant. Donc pensez à l'intérêt de la personne, mais n'oubliez pas que les centres d'intérêt peuvent aussi changer avec le temps. Donc, on peut se désintéresser des choses qu'on aimait dans le passé, mais aussi on peut découvrir des nouveaux centres d'intérêt lorsqu'on est exposé à des nouvelles activités. Donc, vous pouvez, donc avec la personne dont vous prenez soin, vous pouvez essayer des nouvelles choses, vous proposer des nouvelles activités, des nouvelles idées. Mais lorsque vous essayez une nouvelle activité, soyez tout le temps attentif aux signes verbaux, non verbaux que la personne peut donner pour voir si elle apprécie ou non la nouvelle activité que vous proposez. Donc, en ergothérapie, on appelle les activités qui sont importantes pour nous des activités significatives. Puis c'est elles qui vont avoir un impact positif sur la personne qui les pratique. Pensez juste à comment le temps passe vite quand vous faites quelque chose que vous aimez ou le sentiment d'accomplissement que vous éprouvez lorsque vous faites une tâche que ça fait longtemps que vous deviez faire. Donc ça, c'est important pour tout le monde et à tous les stades de la vie. Donc, ce que je vous encourage maintenant à faire, c'est à prendre juste quelques secondes pour penser à quelles activités sont importantes pour vous et pour la personne de qui vous vous occupez. Donc, puis comme chaque personne est différente, ben il faut adapter les activités aux capacités de chacun. Donc, pour la majorité des activités, il est possible d'ajuster différentes composantes. Donc, on peut ajuster la composante physique qui implique la motricité fine, comme la manipulation de petits objets, la motricité globale, qui peut être comme taper sur un ballon, marcher ou même l'endurance. Au niveau des capacités cognitives, ça peut impliquer la compréhension des différentes étapes pour faire quelque chose ou même des instructions. La planification des prochaines étapes, mesurer comme dans une recette ou même la mémoire. Au niveau de l'implication sociale, bien, ça concerne avec qui l'activité est pratiquée, donc on peut avoir plus ou moins de personnes qui sont impliquées dans l'activité. Donc, il se peut que vous vouliez ajuster un de ces éléments-là ou que vous vouliez tous les ajuster selon les habiletés, les intérêts de la personne. Puis, a été démontré aussi que pour des personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif à un stade avancé, la participation va s'améliorer lorsque les sens sont stimulés. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant à considérer. Donc, lorsqu'on adapte une activité, ce qu'on veut, c'est de trouver le bon niveau de stimulation. Donc, on veut que l'activité soit stimulante, qu'elle offre un certain défi. Sinon, on ne va pas aller chercher l'effet positif de qui on a parlé, d'aller stimuler certaines habiletés. Mais on veut aussi s'assurer que la personne puisse réussir. Donc, si vous êtes un proche aidant, pensez à quelle activité la personne peut faire, puis essayez de l'aider seulement lorsque c'est nécessaire. Donc, on essaie toujours de faciliter ou de favoriser la prise de décision pour la personne et l'indépendance de son proche le plus possible. Donc, en allant chercher le bon niveau d'activité, on va s'assurer que cette activité-là est pas trop facile parce qu'à ce moment-là, elle pourrait devenir ennuyeuse, puis comme on disait, de ne pas stimuler. Donc, si on donne, par exemple, si vous avez l'habitude de faire des casse-têtes de 500 morceaux, puis on vous donne un casse-tête de 20 morceaux, mais c'est certain que cette activité-là va sûrement pas être très intéressante pour vous. À l'inverse, si on vous donne un casse-tête de 500 pièces, puis qu'au bout de 15 minutes, vous n'en avez pas assemblé aucune, ben à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu frustrant. Donc, dans la prochaine partie, ce que je veux, c'est d'essayer de vous donner des stratégies pour ajuster des activités pour que justement, on peut aller chercher le bon niveau de degré de difficulté pour aller chercher cette stimulation-là, tout en s'assurant que l'activité a une chance de succès. Donc, je vais passer par quelques activités spécifiques. Donc, vous pouvez prendre ces stratégies-là, les appliquer à d'autres activités ou même peut-être penser à avoir des idées de comment vous allez pouvoir inventer ou créer vos propres stratégies. Donc, dans cette section-là, chaque diapositive va avoir le nom de l'activité qui est en haut à gauche. Puis ensuite, en bas ici, on va avoir quelles compétences là, on discute, donc ça au niveau physique ou cognitif. Donc, ça va être cette compétence-là qu'on va adapter. Donc, ici, on va parler des repas parce que manger, bon, c'est essentiel, mais ça peut vraiment s'avérer plus difficile lorsque les capacités physiques sont affectées par un trouble neurocognitif. Mais heureusement, il existe une grande variété d'ustensiles et de vaisselle adaptées qui peuvent être utiles à l'heure des repas. Donc, ici, on a des ustensiles avec un plus gros manche. Donc, ça va éviter d'avoir besoin d'une trop grande dextérité en prenant la cuillère avec ou un autre ustensile avec la main au complet. Donc, c'est un petit peu plus facile d'un côté de la manipulation. Puis, beaucoup de la vaisselle adaptée va aussi avoir des pieds qui sont antidérapants. Donc, quand la personne essaie de prendre la nourriture avec l'ustensile, ça facilite cette étape-là. Donc, vu que la vaisselle, elle va pas glisser. C'est possible aussi de mettre un tapis antidérapant ou un apron antidérapant sous la vaisselle. Ici, dans l'image, on voit une tasse à deux poignées. Donc, celle-là, elle a même un bec, donc qui facilite encore là, éviter que le liquide tombe. Mais avec les deux poignées, donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va augmenter la stabilité lorsqu'on lève la tasse pour l'amener à la bouche, donc réduire là, le risque qu'il y ait un petit dégât. Puis, donc, la vaisselle aussi adaptée que vous voyez ici, là, elle est dotée de rebords qui fait en sorte, là, comme on voit avec la cuillère ici, que ça va être plus facile d'aller chercher les aliments sur le côté. On peut même, à certains stades, si l'utilisation des ustensiles est plus difficile à aller chercher des aliments qu'on peut manger avec les doigts seulement pour éviter leur utilisation en général. Quand il y a des difficultés motrices, ben, c'est presque certain qu'il va avoir des dégâts. Donc, il existe maintenant là, des bavoirs qui ont l'air pratiquement des foulards, donc qui sont plus à la mode. Il y a d'autres outils aussi, puis qui fait que ces moments-là sont moins difficiles pour tout le monde. En règle générale aussi, adapter, donc en coupant les aliments en plus petites bouchées, ça va être plus facile tant au niveau moteur qu'au niveau pour l'ingestion. Donc, par contre, là, au stade plus avancé d'un trouble neurocognitif, c'est possible qu'il y ait des problèmes de déglutition qui arrivent. Donc, si vous voyez que la personne là, s'étouffe avec la nourriture ou plus de difficultés à avaler, dans ce cas-là, ça serait une bonne idée de voir un professionnel de la santé. Des fois, les textures peuvent être modifiées pour faciliter cette étape-là. Bon, donc la préparation des repas, ça peut aussi être un moment agréable à partager ensemble. D'un point de vue cognitif, c'est sûr que si on fait le repas au complet, ça peut être plus difficile, mais les personnes peuvent être impliquées dans différentes étapes, aussi simples ou aussi complexes, là, selon leur capacité. Donc, pour les personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif, il y a différents symptômes qui peuvent affecter leur capacité à participer en toute sécurité à la préparation des repas. Donc, en raison d'une baisse d'attention, on peut oublier d'éteindre la cuisinière. Au niveau de la pensée abstraite, bien, au niveau de la mesure pour certains ingrédients, ça peut être plus difficile aussi. Donc, il est possible qu'on dans la photo ici de superviser ces étapes-là. Donc, si ça implique la cuisinière ou des outils plus coupants, ou d'oublier la cuisinière et faire des recettes comme des salades ou des sandwichs qui ne nécessitent pas de cuisson. Ici, au niveau de pour mettre la table, bien, on a des napperons qui vont donner des indices à la personne sur où les éléments doivent être disposés. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi pour faciliter cette activité-là. Puis, il y a différents outils au niveau de la sécurité qui existent. Donc, celui qui est dans la diapo ici, ce qu'on voit, c'est un outil que si le détecteur de fumée se met en marche, à ce moment-là, la cuisinière va être éteinte automatiquement. Donc, au niveau du bain, c'est aussi une activité qu'on veut que la personne puisse participer autant qu'elle peut. Donc, si l'équilibre ou l'endurance sont limités, on peut utiliser un banc de douche qui peut être très utile. Il existe plusieurs modèles, donc certains qui sont directement dans le bain ou la douche, certains qui vont par-dessus, donc qui permettent de rentrer de façon différente. Donc, encore là, si vous avez un besoin pour choisir le bon banc, je vous conseille de consulter avec un ergothérapeute pour voir lequel correspond le mieux à vos besoins. L'installation de barres d'appui aussi peut accroître la sécurité pendant le bain parce la tenir s'il y a un manque d'équilibre ou si on est plus fatigué. Puis il existe aussi là, différents types d'aides techniques comme des éponges à long manche qui vont nous permettre d'aller chercher ou d'aller laver des zones qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à atteindre là, si on a un manque de mobilité. Puis pour éviter des comportements plus difficiles lors du bain pour les personnes qui ont un trouble neurocognitif, ce qu'on veut, c'est d'essayer le plus possible de maintenir la routine de la personne. Donc, on pense quand est-ce que cette personne-là se lave d'habitude? Donc, est-ce que c'est plus le matin, le soir? On va essayer de garder ça. Est-ce qu'elle utilise la douche, la baignoire? Est-ce que cette personne-là aime son eau plus tiède, chaude, un petit peu plus froide? Donc d'essayer de reproduire à quoi la personne est habituée. Donc, on veut essayer de créer un moment, une atmosphère qui est détendue, comme on voit dans la photo ici en bas. Donc, pas nécessairement les grosses lumières, quelque chose qui est aussi un peu plus chaud, là. Donc, on fait ça que la salle de bain elle soit agréable, surtout que la personne va être dévêtue. Puis on veut le plus possible placer une serviette sur le corps pour protéger l'intimité de la personne, surtout s'il y a une autre personne qui est présente pendant le bain. Puis vraiment encourager la personne à faire tout ce qu'elle peut par elle-même. Donc on peut guider les prochaines étapes avec des instructions verbales ou avec des gestes ou en pointant vers les différents outils que la personne doit utiliser. Si les capacités de la personne sont plus limitées, à ce moment-là, on peut mettre votre main sur sa main pour la laver, comme ça donne un petit peu plus, ça permet de garder un plus d'intimité pour cette personne-là. Donc, s'habiller peut aussi être difficile lorsque la mobilité est affectée ou si on ne peut pas bouger le corps aussi facilement dans l'espace. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez opter pour des vêtements plus amples, donc qui vont être plus faciles à enfiler. Éviter les boutons et les fermetures à glissière aussi, donc les zippers qui vont nécessiter plus de dextérité fine. Ici, on voit aussi là, un soutien-gorge à fermeture frontale qui peut être un petit peu plus facile à attacher, donc tant au niveau de la motricité, parce qu'on voit ce qu'on fait, qu'au niveau de la mobilité. Puis, il existe maintenant plusieurs lignes de vêtements qui proposent des vêtements qui sont adaptés. Puis, les styles se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années. Donc, vous pouvez les trouver en ligne, mais il y a des magasins physiques aussi. Donc, ici, on voit un exemple. Donc, c'est un chandail à boutons. Puis, les boutons ont l'air tout à fait. C'est typique d'un autre chandail, mais au lieu d'avoir un bouton qu'on doit enfiler dans un trou, c'est plutôt un mécanisme avec un magnétisme. Donc, c'est beaucoup plus, avec l'aimant, c'est beaucoup plus facile à attacher que si on avait enfilé. D'un point de vue cognitif, s'habiller peut aussi être difficile parce que ça implique plusieurs étapes et aussi beaucoup de choix à faire. Donc, pour faciliter les étapes, ce qu'on peut faire, c'est de placer les vêtements dans l'ordre dans lequel ils vont être mis. Donc, on peut avoir les sous-vêtements, les pantalons, le chandail, s'il y a un deuxième chandail à mettre par-dessus. Donc, tout dans l'ordre placé sur le lit. Comme ça, la personne peut seulement les prendre un après l'autre. On peut aussi utiliser des instructions verbales pour donner la prochaine étape. Ensuite, retirer les articles qui portent plus de garde-robe ou des tiroirs ou même les vêtements hors saison ou les diviser en sections peut faciliter la prise de décision. Puis si des fois c'est moins frustrant aussi, là, on doit pas demander à la personne de se rhabiller parce qu'elle a mis un short alors qu'on est en hiver. Donc ces vêtements-là sont juste hors portée. Donc les choix qu'elle va faire dans ce qui est disponible, bien, vont être appropriés. Puis si les choix deviennent un petit peu plus difficiles pour la personne, ce qu'on peut faire, c'est proposer seulement deux options. Donc est-ce que vous voulez porter le chandail rouge ou le chandail bleu, mais ce choix-là, il est important au niveau de l'efficacité de l'efficacité personnelle. Donc, c'est quelque chose qu'on doit essayer de maintenir le plus longtemps possible. Au niveau de la mémoire, on peut mettre des images ou des images ou des étiquettes sur les tiroirs ici. Bon. Donc, qui vont indiquer qu'est-ce qui est à l'intérieur de chacun des tiroirs. Au niveau des loisirs, bien, c'est certain que dépendamment des intérêts de la personne, les adaptations vont varier en fonction de l'activité. Mais au niveau de la motricité fine, d'un point de vue global, donc les petites pièces vont toujours être plus difficiles que les grandes. Donc, manipuler des petites pièces, soit au niveau des casse-têtes ou même des pions sur un jeu, ça va être plus difficile que si on a quelque chose de plus gros. Donc, c'est des fois des adaptations qu'on peut faire. Mais aussi manipuler avec de la vitesse, c'est plus difficile que si la personne a du temps. Donc, si c'est possible de changer ça aussi, c'est une possibilité. Au niveau des casse-têtes, bien sûr, je l'ai mentionné tantôt, on a le nombre de pièces. qui est important. Donc, c'est certain qu'un casse-tête avec plus de pièces va être beaucoup plus complexe qu'un casse-tête avec peu de pièces. Par contre, il y a d'autres choses aussi à considérer, comme les contrastes. Donc, si on pense ici là aux pièces qui constituent le ciel dans ce casse-tête-là, ça va être beaucoup plus difficile à assembler que ici les oiseaux qui sont de différentes couleurs. Donc, une autre chose à prendre en considération. Puis pour les autres jeux de cartes, jeux de table, en ce moment-là, la complexité des règles va souvent faire en sorte que c'est là qu'on va pouvoir ajouter le degré de difficulté. Si quelqu'un est familier avec les règles, par contre, souvent c'est un petit peu plus facile que d'essayer de montrer de nouvelles règles ou une nouvelle activité. Donc, les activités sociales. Donc, on peut avoir des activités qui sont faites à deux personnes ou en grand groupe, comme on voit ici. Donc, c'est sûr que c'est souvent très plaisant d'avoir plusieurs personnes autour, mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi très stimulant, des fois surstimulant. Donc, quand on a des activités sociales comme ça, c'est important de porter attention à comme les signes que la personne pourrait nous envoyer, les signes non-verbaux ou verbaux, puis de peut-être de se retirer au besoin ou d'aller dans un endroit plus calme si on voit que la personne n'est pas à l'aise dans le groupe. Donc, quelques suggestions là, globales au niveau de faciliter la communication pendant les activités. Donc, c'est de faire face à la personne pour que la personne puisse voir nos expressions, nos lèvres pendant qu'on parle. On veut utiliser un langage qui est simple, le plus simple possible parce que ça va être plus facile à comprendre. On veut parler lentement, tout autant que possible. On veut aussi utiliser des intonations qui vont transmettre nos émotions. Donc, pas simplement utiliser les mots, mais montrer qu'on est heureux de faire cette activité-là avec eux, que c'est quelque chose qui est agréable. On veut éviter les distractions, donc, que j'ai mentionné. L'attention est plus difficile, donc, d'avoir beaucoup de la télévision des fois ou de la radio ou même d'autres choses sur la table pendant l'activité, ça peut être un petit peu distrayant et faire en sorte que c'est plus difficile de compléter ou d'avoir du succès dans ce qu'on fait. Puis on peut utiliser des gestes pour pointer vers la serviette, pointer vers le savon, qui vont aller amplifier un petit peu ce qu'on dit ou même des gestes qui vont guider la main de la personne vers la tâche qu'elle doit faire. Donc, quelques derniers petits trucs pour avoir une activité qui est réussie. Donc, on veut trouver une activité qu'on a mentionnée qui correspond aux intérêts de la personne, mais on peut essayer de voir s'il y a des nouveaux intérêts, proposer des nouvelles activités et aux capacités de la personne. Donc, prendre en considération qu'est-ce que la personne est capable de faire en ce moment. On veut encourager la personne à faire autant que possible avant de l'aider. Donc, on veut vraiment aller chercher ce sentiment d'autonomie-là. Donc, de permettre à la personne de le faire, même si des fois, ça peut être un petit peu plus long. On veut essayer de maintenir les routines, parce que c'est toujours plus facile. Donc, d'avoir des activités dans ces routines-là. On veut penser au niveau d'énergie. Donc, si la personne qu'on s'occupe a souvent une baisse d'énergie après le dîner, mais c'est pas là qu'on veut nécessairement introduire notre belle nouvelle activité. Donc, on va aller chercher un moment qui est plus propice pour cette personne-là. Mais surtout, donc, on veut mettre l'accent sur ce que la personne peut faire. Donc ça, on appelle ça une approche sur les forces en ergothérapie. Donc, qu'est-ce que la personne peut faire aujourd'hui? C'est quoi ses capacités actuelles? Donc, on ne veut pas aller penser à ce que la personne faisait il y a un an ou même ce que la personne faisait hier parce que les habiletés peuvent varier d'une journée à l'autre. Qu'est-ce que la personne peut faire aujourd'hui? Quelle est l'activité qui est possible pour cette personne-là? Puis, on focus sur ça, sur ce qu'on a qui est possible de faire ensemble. Donc, parce que la participation des activités est si importante, puis souvent un peu négligée aussi pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, on a quatre étudiantes en ergothérapie qui ont créé en 2020 un livret d'activités pour les aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, vraiment, leur but, c'était d'augmenter le plus possible la participation à des activités, mais aussi de briser l'isolement, le temps à la maison que dans les résidences. Donc, dans ce livret-là, donc, elle nous propose plus de 40 activités que vous pouvez faire avec vos proches avec des troubles neurocognitifs, mais vraiment qui s'applique aussi à tout le monde. Puis vous pouvez avoir du plaisir à faire tout ça ensemble. Donc, le livret est divisé en six sections. Donc, on a la création de l'artisanat qui va de l'origami à la cuisine, on a des jeux intellectuels comme des casse-têtes, des sudokus. et des, donc des mots croisés, on a des activités physiques comme des exercices sur chaise, on a des exercices qui vont aller ou des activités qui vont stimuler les sens, on a une section sur les activités ménagères et aussi sur les événements avec des événements sociaux. Puis pour chaque activité, donc on décrit le but de l'activité, les différentes étapes à suivre. On a aussi une section avec le matériel qui est requis, ce qui vous permet d'aller être tout prêt, donc éviter là, de perdre un petit peu le focus en allant chercher le matériel qui pourrait être requis plus tard dans l'activité. On a aussi des conseils de sécurité. Puis ce qui distingue vraiment ce livret-là des autres livrets qui existaient, c'est qu'on vous permet d'adapter les activités, soit à la baisse ou à la haute, en termes de degré de difficulté au niveau cognitif et au niveau physique pour s'adapter aux capacités de la personne. Puis ce qu'on a vu, c'est avec les gens qui ont utilisé ce livret-là, c'est qu'il y avait une augmentation de la quantité d'activités, mais aussi un changement au niveau du type d'activité que ces personnes-là faisaient. Donc, un beau succès par ces étudiantes-là. Et maintenant, grâce à la fondation Prochainement de Petro-Canada, on a pu donner vie à certaines de ces vidéos, de ces activités-là par le biais de vidéos. Donc, on offre 14 vidéos gratuites sur le site Internet du programme. Ils sont disponibles en français et en anglais. Puis dans les activités, dans les vidéos, vous pouvez voir une démonstration de l'activité, des conseils pour adapter l'activité et des conseils de sécurité aussi. Donc, on voudrait chaudement remercier la Fondation Prochainement de Petro-Canada de nous avoir permis de réaliser ce beau projet-là. Et maintenant, je vous invite à écoutez un aperçu des vidéos qu'on a développées. Alors, pour commencer, Marie-Ève, merci beaucoup pour nous avoir présenté ces stratégies très importantes. C'était très éducatif et je trouve que c'était très complémentaire pour le lancement des capsules que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que j'adore de qu'est-ce que vous avez présenté aussi, c'est de vraiment mettre l'emphase, de mettre l'accent sur ce que la personne peut encore faire. Je trouve que souvent, les proches aidants ou les membres des familles sentent comment c'est les troubles neurocognitifs majeurs, c'est certain que ça cause un peu de deuil dans les familles parce qu'on est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il peut pas faire. Mais je pense que vous nous avez vraiment expliqué comment encourager et embrasser qu'est-ce qu'il peut encore faire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaie d'amener un petit peu d'ergothérapie dans chaque famille en permettant justement de penser aux forces de la personne et comment on s'ajuste au changement. Puis on a chacun, toute notre vie, on a chacun nos forces et nos limites aussi, puis on vise sur les forces toujours.
Et moi, je suis tellement, tellement ravie de ce beau projet que vous avez réalisé avec nous grâce à la Fondation Proche Aimant de Petro-Canada. parce que ça va vraiment être un bel cadeau, un beau cadeau pour les membres de famille, les professionnels de la santé, les préposés qui travaillent dans les résidences avec les aînés. Ça va encourager vraiment tout le monde à essayer de encourager les gens à participer dans la vie, vraiment démontrer comment faire les activités et comment être créatif. Il y a 14 capsules en anglais et en français. Comme vous avez mentionné, nous avons aussi le livret dont il y a 40 différentes activités, mais les capsules sont vraiment spéciales. Alors, je pense que maintenant, nous allons voir un des capsules à propos de cuisiner avec quelqu'un, c'est ça?
Exactement.
La cuisine est l'endroit idéal pour socialiser, stimuler tous les sens et offrir à la personne atteinte de troubles neurocognitifs un objectif réalisable et délicieux. Voici les termes qui seront utilisés dans cette vidéo. Veuillez consulter le glossaire pour les définitions complètes. Tout au long de l'activité, vous verrez apparaître ces icônes. Nous les utiliserons pour vous donner des conseils, des indications de difficultés et des consignes de sécurité. Prêtez une attention particulière à ce symbole de sécurité. Nous avons inclus de nombreux conseils utiles pour vous aider à réduire les risques ou les accidents. Vous pouvez aussi consulter tous les conseils dans notre liste de consignes de sécurité. Les consignes de sécurité et le glossaire sont disponibles sur le site Internet du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill, où vous pouvez également télécharger une copie du livret d'activité. Ce curseur apparaît pour montrer comment varier la difficulté de l'activité. Plus c'est pâle, plus c'est facile. Plus c'est foncé, plus c'est difficile. Pendant que vous réfléchissez à ce que vous allez préparer, identifiez le matériel dont vous aurez besoin. Il peut s'agir de bols à mélanger, d'ustensiles, de tasses à mesurer, de planches à découper, de casseroles et de poêles, pour n'en citer que quelques-uns. Vous aurez peut-être même besoin d'un mélangeur ou d'un robot culinaire en fonction de la recette choisie. La première étape pour préparer un repas ou une collation avant même de rassembler le matériel est de choisir la recette. Selon le stade du trouble neurocognitif de la personne atteinte, vous pouvez soit en parler avec elle, soit choisir une recette que vous savez qu'elle aimera. Cette préparation favorise l'enthousiasme pour la tâche à accomplir et contribue à stimuler l'appétit des personnes dont le goût et l'odorat ont été altérés. N'oubliez pas de consulter le livret d'activités pour plus d'idées et de recettes. Faites attention! Travailler à proximité d'une cuisinière ou d'un four chaud exige une plus grande vigilance. Une fois que vous savez ce que vous allez préparer, placez tout ce dont vous aurez besoin sur le comptoir, y compris les ingrédients et le matériel. C'est un excellent moyen de travailler efficacement, de rester concentré et de consacrer toute son énergie à la partie la plus amusante, cuisiner et être ensemble. L'étape suivante est la préparation des ingrédients. Laver, mesurer, rouler, éplucher et couper les ingrédients selon les besoins. La personne atteinte de troubles neurocognitifs peut participer à l'une ou l'autre de ces étapes, ou même à toutes. Soyez prêt à vous adapter si c'est nécessaire. Vous pouvez vous ajuster en lui donnant les ingrédients que vous avez préparés ou mesurés et en la chargeant de les mélanger. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des ingrédients congelés ou déjà coupés. Vous avez besoin d'un plus grand défi? La personne dont vous vous occupez peut préparer un repas complet. Restez à ses côtés pour la superviser et jouer le rôle d'assistant. Encouragez-la tout en restant vigilant. Des dégâts, ça arrive. Essuyez-les immédiatement pour éviter les chutes. Il est maintenant temps d'assembler ou de cuisiner votre repas. Si la personne a du mal à se concentrer ce jour-là ou si elle est au stade intermédiaire des troubles neurocognitifs, vous pouvez quand même passer du temps ensemble dans la cuisine. Faites-la participer aux étapes qu'elle est capable de faire. Ou alors, oubliez la cuisson. Choisissez une recette qui se prépare vite et qui ne nécessite pas la cuisinière, comme l'assemblage de fromage et de craquelins sur une assiette. Une personne à un stade plus avancé de troubles neurocognitifs peut encore aimer être dans la cuisine avec vous. En vous regardant préparer le repas, en le goûtant pendant la préparation et en appréciant les odeurs, elle a le sentiment de faire partie de l'activité. Peu importe ce que vous préparez, la sécurité dans la cuisine est importante pour tout le monde, mais surtout pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. On arrive enfin à la meilleure partie. Partager un délicieux repas ensemble. Cuisiner ensemble est un moyen idéal de tisser des liens et de socialiser. Peu d'activités sollicitent autant les cinq sens que la cuisine. Et en prime, utiliser ses mains est un excellent moyen de faire travailler la motricité fine et la dextérité. Vous trouverez plus de recettes et d'inspirations dans le livret d'activités. Et n'hésitez pas à explorer Internet pour trouver d'autres plats que la personne aimera préparer et manger. Bon appétit!
Alors, j'espère que tout le monde avait apprécié ce vidéo. Je l'ai trouvé très émouvant, très spécial. Et comme nous avons mentionné, il y a 14 capsules comme cela. Pour dire que je suis une actrice pendant une des vidéos. Je participe dans la vidéo pour comment faire l'exercice à la maison. Alors, c'est la première fois que je fais un début de film moi-même. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est que j'aimerais montrer à tout le monde comment accéder, avoir accès à ces capsules. Alors, si vous allez sur notre site web, mcgill.ca dementia, alors vous allez dans cette section-là. Et là, vous allez trouver tous les ressources gratuites. Ainsi que d'autres web émissions de McGill à vos côtés. Nous avons plus d'une centaine de web émissions. Vous allez être capable aussi de télécharger le livret dans le guide d'accompagnement que j'ai mentionné au début de cette web émission. Et là, vous allez dans la section pour avoir les capsules qui s'appellent ressources. Alors, dans la section de ressources, vous avez juste à aller ici et voir le livret d'activités et capsules vidéo. Alors, c'est ça. Vous allez être capable d'accéder aux ressources ici. Et aussi, je voulais juste mentionner que nous avons des groupes de soutien. Nous avons une collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal et nous avons plusieurs ressources aussi pour les jeunes aidants. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de visiter notre site pour avoir accès à toutes nos ressources. Alors, pour terminer, Marie-Ève, j'aimerais vous remercier encore de votre bel effort pour nous aider à réaliser ce projet. Vous et votre équipe, c'était vraiment c'était un gros travail, n'est-ce pas?
Oui, mais ça a été un plaisir de participer. C'est tellement un beau projet avec, je pense qu'il va pouvoir vraiment toucher les gens qui ont à faire face aux troubles neurocognitifs. Puis merci à vous, Claire, d'avoir pu permettre que ce projet-là vive.
Et merci beaucoup et aussi un très gros merci encore à la Fondation Prochainement de Petro-Canada pour nous avoir permis de réaliser ce cadeau à plusieurs personnes qui vont vraiment bénéficier de ces activités-là. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill qui est financée par des dons privés. Alors, si vous voulez faire un don à notre programme ou pour en savoir plus sur nos ressources, s'il vous plaît, rendez-vous à mcgill.ca/démence. Et aussi, s'il vous plaît, inscrivez-vous à notre infolettre. Comme ça, vous allez toujours être au courant de nos ressources et nos programmes importants. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web ou vous pouvez nous envoyer un courriel à dementia@mcgill.ca. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne année encore.